c'est-à-dire les enfants de Jacob parlant à leur père, et Moïse parlant à tout Israël. Et vous voyez bien que ça impliquait énormément de choses, de problèmes, de sujets. Chacun d'entre eux, lorsque nous les trouverons, les relirait à cette lecture. C'est-à-dire à ce que nous avons déjà fait. Est-ce que il vous est apparu des questions qu'on n'a pas déjà étudiées là-dessus? En particulier sur la deuxième lecture, le problème de l'opposition entre la loi et la foi, qui est arrivé à la fin, rien qu'à vous indiquer ce problème, on ne l'a pas encore étudié vraiment. Okay. Comment vous le voyez-vous? Si vous croyez, vous arrivez à quelque chose d'assez important. Je vais vous reprendre du problème après. D'une certaine manière, nous aurons d'ailleurs à reprendre ce qui est du chapitre 20 dans d'autres lectures, c'est-à-dire pour mettre en évidence le côté de mérite de l'acceptation d'Israël de la Torah au Sinaï, malgré tout. Mais j'ai mis en évidence un aspect un peu négatif de la lecture, c'est-à-dire que dans cette acceptation de la loi proposée par Dieu lui-même, il était impliqué d'une certaine manière une réticence, on a reçu de Moïse. Vous vous rappelez de cela? Quel était le verset? Quand la chair dit vers la chair, on a ainsi tout ce que Dieu dira. Il y a une accentuation à mettre qui implique qu'il y a à la fois acceptation de ce que Dieu dira, et d'une certaine manière, on pourrait se poser le problème, et où serait le mérite si Dieu se dévoile? Est-ce qu'il y a encore liberté d'accepter ou de refuser? Vous comprenez ma question? Si nous prenons au sérieux le fait de révélation dans l'événement, eh bien le fait de révélation dans l'événement paralyse la liberté. Et par conséquent, on comprendrait mal où serait, c'est peut-être très important dans les sources, le mérite d'Israël d'avoir été seul de toute l'humanité à accepter la Torah que Dieu propose. Mais s'il se révèle, s'il se dévoile pour la proposer, il y a une paralysie de la liberté. Par conséquent, vous serez le mérite qui pourrait répondre, pourquoi une chaise est-ce que la capacité? Et qui pourrait répondre? Vous avez réfléchi à cet aspect de la question? Même si vous avez réfléchi d'autre part avant.
Le mérite pourrait être d'être capable de recevoir, de recevoir cette révélation.
Ce serait un mérite d'être. Un mérite d'être, non, mais c'est pas ma question. Mérite d'être ou pas mérite d'être? Dans l'événement lui-même, Dieu propose, l'homme accepte, tout le mérite. Parce que, pour le dire d'une autre manière, enfin, pas trop compliquer les choses, il peut y avoir de mérite s'il y a liberté de choix. Or, dans l'événement de révélation, la liberté est évanouie complètement. On a l'habitude de le dire dans les sources du Midrash, devant le roi, le serviteur est valide. Est-ce que c'est clair? Si le roi est présent, le serviteur est au garde-à-vous. La réponse est très simple. Le mérite est dans le fait d'être allé au Sinaï. Le mérite est dans le chemin qui a mené au Sinaï. Vous savez où vous allez. Vous êtes prêts? À partir du moment où on est arrivé là où on devait arriver, le mérite est acquis déjà.
Ça
le mérite est dans le chemin.
Ça va bien en compte qu'on a dit la dernière fois, comme quoi ils étaient sortis d'Égypte, sans savoir où ils allaient, sans savoir qui. Là, il y a eu surprise parce qu'ils ont reçu une Torah qu'ils n'attendaient pas.
Nahon.
Alors ça remet en cause ça.
Nahon. Enfin, sans aller jusqu'à l'essentiel du problème, vous savez, j'ai quand même. Non, c'est ça. C'est pensable que. Et malgré tout, le projet de départ était de quitter l'Égypte pour entrer en Eretz Israël. Or, Moïse leur fait faire un détour. Il va les amener au Sinaï. Alors, il est pensable de penser, je ne sais pas comment dire ça en français, tout le monde raisonnable de penser, il se doutait bien qu'il y avait une espèce de rendez-vous. Et effectivement, vous verrez les textes, il pensait dans tous les cas qu'ils allaient à une rencontre avec l'Eretz Israël. Ça, ils le savaient. Et ils le disent de façon formelle, qu'on achète des bérachènes, ils sont prêts a priori à entendre ce que Dieu aura leur dire. pourra à l'avenir. Là où ils ont été surpris, c'est quand, avant même cette rencontre avec Dieu lui-même, qui se fera le 6 Sivan, lorsque Dieu aura décidé de se dévoiler à tout le peuple pour habiliter Moïse, Moïse, trois jours avant, vous vous rappelez, leur dit, vous avez un changement de programme. Vous allez devenir le peuple de prêtre de l'humanité entière. C'est ça le grand choc. Il y a une mission qui dépasse l'histoire purement existentielle. Et donc, ils savaient qu'ils avaient un rendez-vous. Et le motif qui avait été donné aux Égyptiens pour obtenir qu'ils puissent partir, nous avons un culte à rendre dans le désert au Sinaï, là d'où Moïse revenait. Et je ne vais pas encore rentrer dans les détails pour répondre à ta question, mais disons grosso modo. Ceci va se refléter, certains d'entre vous savent déjà cela, d'autres pas, je suppose, ceci va se refléter dans toute la période, dans la liturgie du calendrier qui va entre Pessah et Shavuot. Vous savez qu'il y a 50 jours qui ont une signification spéciale dans le calendrier, c'est les 50 jours du Homer, et que l'on compte un par un, depuis Pessah qui commémore la sortie d'Égypte, jusqu'à Shavuot qui commémore la révélation de la Torah, le Maharamad au Sinaï, ce qui s'est passé au Sinaï, il y a 50 jours que l'on compte un par un. C'est les 50 jours du Homer. Ça, nous étudierons ce problème pour lui-même, parce qu'il y a différentes couches historiques de cette période du Homer. Et c'est la raison pour laquelle en français, par exemple, Shavuot se dit Pentecôte. Ça vient d'un mot grec qui signifie 50e jour. Pentecôte. Donc, la Torah demande, ou les dans le verset, de compter 50 jours cette semaine. Cette semaine, 50 jours. Et nous verrons qu'en réalité, cette semaine, ça fait 49 jours, et qu'on ne compte effectivement que 49 jours, le 50e, on ne compte pas. Le sens de cela est très précis par rapport à notre sujet. Si on a compté les 49 jours, si on a monté les 49 degrés, le 50e est donné. Mais où était le mérite d'obtenir le 50e dans les 49? Voilà jusque-là. Mais le mérite était dans le chemin. Et une fois arrivé au rendez-vous, dévoilement, il n'y a plus place pour cette notion de mérite à ce moment-là, il est déjà acquis.
Est-ce que ça marche encore de
nouveau? Bah oui. Tu veux dire dans la liturgie?
Non, c'est dans la liturgie, c'est-à-dire que arrive au 49e jour, réellement, il y a le 50e qui arrive.
Oui,
le silence de Dieu, est-ce qu'on arrive à le détecter le 50e?
Oui. Je veux dire, tout ce problème des 50 jours est un problème très important. Mais, puisque nous parlons de ça, je vous en dirai un peu quelque chose quand même. Il y a une grande tradition dans la tradition juive, donc hébraïque, mais c'est une grande tradition en général, dans toutes les traditions, vous retrouverez cela. C'est qu'il y a 50 portes de la sagesse, 50 niveaux de la sagesse. Je vais vous parler un peu de cela pour répondre à la question de Yéli en voyant le sujet. En fait, du point de vue de la tradition hébraïque elle-même, il n'y a plus de craie blanche. Peut-être que quelqu'un pourra avoir oublié. C'est Nun 50. Nun comme ça, mais c'est le grand Nun. Nun, c'est 50. C'est Nun, Charlé, Bina. Les 50 portes de l'intelligence. Bon, Bina. Bina, c'est un des niveaux de la sagesse. C'est pas exactement la sagesse, mais c'est une des voies de la sagesse glorieuse. Ça, nous apprendrons un peu plus tard dans notre sujet, en particulier quand on arrivera dans l'étude de la Tfila, la demande de la bénédiction de la connaissance. Nous verrons les différents niveaux du fait de connaissance. Pour le moment, je veux un peu retarder ça, je veux que vous ayez suffisamment de logique pour comprendre la différence entre l'intelligence Bina et la sagesse française. Bon, c'est pas la même chose. Mais disons, grosso modo, les 50 portes de la sagesse. Notez bien que ça ne veut pas dire sagesse, mais je veux l'interprète comme ça. Venir au monde de degré en degré jusqu'à arriver à un seuil au-delà duquel on arrive à la sagesse. Et alors, chaque fois qu'on a ouvert une porte, on croit qu'on est rentré dans la maison, mais finalement c'est un couloir, voilà, le couloir il y a encore une porte. Plus on ouvre une porte, alors il y a encore une porte qui se ferme, en règle, il faut ouvrir. C'est les 50 portes. Ça correspond à ces degrés de l'ascension dans le mérite. Je vais essayer de vous expliquer ça. Pour vous retenir. en thème, si vous voulez, de philosophie générale, en enlevant le mot de philosophie, disons de sagesse générale, ça veut dire que pour chaque donnée de connaissance, il y a, symboliquement un peu, mais en plus de mot de symbole, 50 niveaux à gravir jusqu'à arriver au commencement de l'étude, qui est, elle, à proprement parler, Chochma, sagesse, vraiment. Et ça signifie ceci, c'est que lorsqu'on a eu la réponse à une question, alors pendant longtemps on croit que c'est la réponse à la question. Subitement on s'aperçoit que c'est encore une porte à ouvrir. Est-ce que vous avez compris le problème? Mais ça, jusqu'au bout des 49, on croit que c'est infini, ça ne va jamais s'arrêter. Quand on arrive au niveau 50, on sait qu'on a commencé à ouvrir la porte. Bon, je parle un peu symboliquement, mais vous comprenez pourquoi. Hein? Et ceci dans tous les niveaux de l'acquisition de l'être et du mérite d'être. Alors je vais vous donner un thème qui vous fera un peu comprendre tout cela. Et de toute façon aussi, nous avons un problème théologique qui consiste à avoir à séparer le bien du mal à tous les niveaux. Le pur de l'impur, la vérité du mensonge, tout nous est donné mélangé au point de départ. Et comment ça s'attache un peu à ce qui est arrivé au premier homme. D'œuvres rares mélangées, le bien et mal mélangé. Vous vous rappelez de ça? Tout se passe comme si on hérite d'un monde où tout est ambigu. Je vous ai déjà employé ce terme de l'ambiguïté. Où tout est. Prenons un mot simple, tout est mélangé. Il faut faire un tri. Il faut éclairer. Le varer, c'est plutôt élucider, trier. Et le varer, c'est donner un éclairage. Quand on donne un éclairage, on voit la lumière, puis l'ombre de la lumière. Tout nous est donné mélangé, et tout l'effort de la vie spirituelle, c'est de distinguer le bien du mal. Et c'est très difficile, parce que tout est ambigu, tout est extrêmement nu, de façon nuancée, mais la difficulté d'un jugement, à propos de n'importe quelle perception d'un événement, on pourrait dire 49 arguments pour, 49 arguments contre, c'est le 50e qui tranche. Vous voyez ce que je veux dire? Alors nous avons une donnée qui peut nous faire progresser dans ce problème. On acquiert un des niveaux de la bina, de l'intelligence, lorsqu'on passe d'une porte de l'impureté à une porte de la pureté. Et puis, on se trouve devant le problème suivant. Que signifie le mot de bina? Je vous traite pour l'intelligence. Je vous donne une analogie grammaticale. En un peu le mot bein, ça veut dire entre, ce qui est entre. Bein. Hein? Prononcez-le à l'ashkenaz, vous entendez le bein. Bein. Et ça veut dire à la fois ce qui sépare et ce qui relie. Deux choses différentes. Qu'est-ce qui les relie? Une heure différente. C'est ce qu'il y a bein. Entre. À la fois séparé et relié. C'est la définition très étymologique du mot de intelligence en français, à partir du latin, interligere, ligare. Ça veut dire ce qui relie, la relation. Mais ici, c'est une relation de distinction. C'est la manière de comprendre, en tant qu'on comprend en quoi deux choses différentes sont différentes. Est-ce que c'est clair que ça, c'est la vie? C'est ce qui rend les idées distinctes. Alors elles ont des chances de devenir claires. Vous avez compris pour relier à l'autre relier. C'est clair? C'est distinct?
Non. Tu vois, quand le 50 degrés d'impureté, 50 degrés d'impureté sont à peu près en relation.
D'accord, ça veut dire que dès que j'ai élucidé cet effort de distinction entre les contraires qui sont mélangés, j'ai passé de niveau. Alors, j'acquiers.
Si vous voulez, à chaque niveau,
un retour de l'impureté à la pureté. Alors j'acquiert un niveau de la connaissance, qui s'appelle Bina. Okay? Vous voyez cette ascension. Bon. Et alors, au niveau 50, alors on est sauvé de tout ce cheminement, de tout cet itinéraire qui est très pénible. Enfin, qui est très difficile, pas pénible. Oui, on peut dire pénible, c'est tout un travail à faire. Par rapport à toute valeur, il y a à acquérir l'ouverture de la 50e porte en passant par les 49.
Ça veut dire qu'il y a 49 choix entre importants avant pour bien et mal.
Oui, ça veut dire qu'à propos de n'importe quel sujet, je peux rester jusqu'à l'indice 49 dans le doute, parce que je trouverai des arguments pour ou des arguments contre. C'est au niveau 50e que je peux trancher. Alors là, j'aborde un tout autre niveau de la connaissance qui s'appelle la sagesse.
Non, c'est pas ça que je vous demandais.
Mais c'est ce que je voulais te répondre. Répète. Répète ta question.
Si il y avait 49 choix à faire entre le bien et le mal. C'est-à-dire s'il y avait 49 questions principales sur le bien et le mal.
Non, par rapport à toute question. Il peut y avoir 49 approches positives ou 49 approches négatives.
C'est clair. Et si je suis à la...
Bon, admettons que c'est un chiffre résumé, récapitulé, symbolique, mais vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans tous les niveaux de l'expérience, et en particulier de l'expérience spirituelle, vous avez donc une ambiguïté, et je peux de bonne foi dire des choses contradictoires du même sujet. Vous comprenez pourquoi les hommes sont en controverse permanente, okay? Parce que personne n'est au même moment de l'analyse, si j'ose dire. Jusqu'à un certain moment, ce qu'on appelle la 50e porte, qui est qu'on peut trancher. Et vous verrez, quand vous commencez à étudier le Talmud, qu'on peut effectivement avoir des controverses avec X arguments pour dire ça c'est interdit, X arguments pour dire la même chose que c'est permis, jusqu'à ce qu'on puisse trancher. Parce qu'il y a un côté où ce devrait être permis, un côté où ce pouvait être interdit, jusqu'à ce qu'on puisse décider vraiment comment est la loi. Simplement parce que la vie et la réalité de la vie est une immense complexité de situations possibles. Il y a des situations où quelque chose de permis est interdit, il y a des situations où quelque chose d'interdit est permis. Vous comprenez ? Ça dépend des précisions du cas très précis duquel il faut trancher, sur lequel il faut trancher. Bon, je vais vous donner l'analyse d'un mot, peut-être que comme le fait le Midrash sur ce problème, pour que vous compreniez un peu qu'il y a une structure qui apparaît, 49, 50. Pourquoi je vous parle de tout ça? Ah oui, 49 jours du Romain. Le mérite s'acquiert dans le 49 est fort. Hein? Et puis, au bout du 49e, alors le 50e est donné. Je vous donnais un symbole qui connaît des autres traditions, ça s'appelle le symbole de la pyramide. Remarquez toutes les pyramides. Il leur manque la pierre d'en haut. Okay. Vous construisez la pyramide d'en bas jusqu'en haut, mais la dernière pierre, elle vient d'en haut. Vous avez compris ce thème, okay. C'est ce qu'on appelle la pierre angulaire, la pierre d'en haut. Vous ne connaissez pas ça? Voilà, je ne sais pas dessiner, mais on voit une pyramide, alors on la construit jusqu'en haut, et puis il manque la dernière pierre. Oui. Et cette dernière pierre-là, elle est censée venir d'en haut.
C'est une image.
Oui, c'est une image, mais que les constructeurs des pyramides ont observé de façon scrupuleuse. Je veux dire, c'est que dans tout effort, tout vient d'en bas jusqu'en haut, mais presque l'achèvement, la complétude, qu'on appelle la couronne, vient d'en bas. Retenez ce thème. Dans le monde des images, c'est une image. Dans le monde de la réalité, c'est comme ça que ça se passe dans toute réalité. La pyramide se construit. Jusque moins 1, le 1 total est donné. Bon. Et à propos de. C'est ce à quoi ta question m'a fait penser. Il y a un miracle, une coutume, c'est que le jour de Shavuot, on mange un gâteau au fromage. On essaie de
ça. Blanc.
De toutes les façons,
blanc.
On apprend à ça dans les liturgies de Shavuot. Premier repas de Shavuot le matin, c'est un repas de lait. Bon. Et chez les Ashkenazim, surtout, je crois, il y a un espèce de gâteau au fromage particulier qui s'appelle la queue. Donc, c'est pas Hanouka, ça.
C'est Hanouka, à Adama.
Ah, donc, Shavuot. Alors, Hanouka, c'est pomme de terre, Shavuot, c'est du fromage. Et alors, n'a droit à ce gâteau au fromage que celui qui a compté les 49 jours du Romain.
Ah oui. Je m'arrête au 48e.
Voilà quelle est la règle.
Oui. Moi je m'arrête au 48e.
C'est-à-dire la règle de la bracha est que on compte les 49 jours avec bracha. Et puis si on a oublié un jour, Alors on continue le compte sans Abraham. On continue le compte pour ne pas oublier. Mais finalement, on a arrêté pour commencer l'année d'après. Ça veut dire que si on a monté les 49, on a le 5e. Mais si on s'est arrêté quelque part, on recommence dans le 5e. Vous comprenez un peu le jeu ? Ça vaut aussi pour la loi des réincarnations, ça vaut pour beaucoup de... Non, ça veut dire que l'année d'après, il faut recommencer depuis le début.
Non, c'est pas tout. Si on s'est arrêté, si on oublie une fois, donc
l'endemain,
on reprend, mais le jour où on
a mis ça. On arrête. On dit plus la papa, puisqu'on a arrêté.
Ah, on a arrêté.
Oui, on compte avec les autres, mais sans dire la papa, puisqu'on a interrompu. Non, je dis l'année d'après pour commencer. Bon. Alors je vais simplement vous montrer cela dans un des mots que j'ai employé. Impur, ça se dit tamé. Vous savez, tamé. Tamé, alors. Bon, vous voyez, c'est très simple. Vous avez la numérique de tamé, c'est 50. Vous avez là 49. Et là, 49 niveaux. Et après, T9, même 40, c'est 49. Et alors, ça fait 1.
Il y a aussi avec ce thème, nous, le
monde.
Avec ce thème, il y a le monde et le monde. Donc, le mot chez mort, nous, bon, 50 en nous.
Bon, et en fait, ce jour-là, il a donné le relais à qui ?
Les joueurs.
Comment il s'appelle ?
Minouille.
Je reprends ce problème. Au moment de la révélation elle-même, eh bien, il n'y a plus de place pour le problème du mérite, puisqu'il y a contrainte, d'une certaine manière, la contrainte, suppression de la liberté, je veux dire, la contrainte est par la révélation elle-même. C'est la révélation qui fait contrainte. Et ça, vous pouvez l'expérimenter dans beaucoup de situations de la vie, où il y a des situations où la valeur s'impose de manière telle, avec une évidence telle, que la liberté disparaît. Alors où était le mérite d'avoir rencontré la valeur ? À partir du moment où la valeur se dévoile, elle s'impose à moi, elle m'oblige. C'est le problème de l'évidence en particulier, et surtout de l'évidence d'ordre suffisant. Et donc, à la limite, l'événement massif de dévoilement de la révélation, de la théophanie elle-même, supprime la liberté du peuple. On ne voit pas comment le peuple pourrait dire oui ou non. Alors où était son mérite ? C'était d'arriver jusque-là. C'est vrai ? Et la question est ainsi, s'il y a une promesse, pourquoi faut-il qu'il y ait des clauses de la promesse ? S'il y a une promesse, pourquoi faut-il qu'il y ait une obligation ? Il y a une promesse que l'histoire d'Israël a une destinée qui s'accomplira, et la foi de ce peuple, avant que Moïse ne parle d'une Torah, c'est la foi que cette promesse s'accomplira. Et pourquoi cette foi a un mérite ? De nouveau, je pose la même question. Si c'est Dieu qui promet, où est le mérite de croire ? Et on va étudier ça pour que l'Abraham, la grande louange pour le dire d'Abraham, c'est qu'il a eu le courage de croire ce que Dieu lui promet. Et Abraham a eu foi en Hachem, et Dieu lui a compté cela comme un grand mérite. Et un des grands commentateurs, l'Armanide, va poser la question, mais où est le mérite de croire quand c'est Dieu qui promet ? Vous voyez que c'est parallèle. Hein ? Je parle d'abord de cela. Où est le mérite de croire quand c'est Dieu qui promet ? Et c'est tout le problème de l'histoire juive.
Parce qu'il y a l'espoir, je crois qu'il y a l'espoir. Les gens avancent comme ça. Par exemple, comme le Mashiach. Chaque jour, on dit qu'il va mourir. Donc, on court après cette histoire-là. C'est comme ça qu'on continue à être juif.
Mais
à vouloir le rester.
Oui, tu renforces la question. Tu renforces la question. Et où est le mérite dans cette, comment dire, permanence de la foi, la permanence de la foi, étant donné que nous savons, nous sommes censés savoir ces deux cas contre.
Là, ça ne dit pas la plus fort.
Tu parles de la question, on attend la réponse.
C'est la confiance.
C'est
la confiance. Si on dit que tout ce qui se passe dans la vie des Juifs, même à ce moment-là, ça n'a pas la vie d'avoir. Je pense qu'on peut comprendre si on dit que tout ce qui se passe à ce moment-là, et même aujourd'hui, ça n'a pas l'allure d'un miracle genre Hollywood. Leur mérite, c'est justement de se rendre compte que c'est Dieu. C'est-à-dire, Abraham, il voit par exemple trois malachim qui arrivent, et c'est des hommes, et nous on se dit c'est des hommes, et lui il sait que
c'est un homme. Je ne parle pas de cette foi-là. Non, je repose ma question une minute. Dieu a promis quelque chose. Par exemple, prenons le cas d'Abraham. Dieu lui promet qu'il aurait un enfant. Et puis quand on arrivera à cette histoire, et il finit par croire, et la Torah nous raconte l'énorme mérite de cet homme qui a cru parce que Dieu lui a promis qu'il aurait un enfant. Comme si ça ne se passe pas tous les jours, pas. Quand on arrivera à cette histoire, on s'étonnera de quelle énorme idée, une promesse pareille, une chose aussi banale. Okay. De quoi il s'agit, on ne comprend pas. Vous suivez? Je repose ma question. Indépendamment de tel ou tel exemple, si c'est Dieu qui promet, quel est le mérite de croire?
De continuer à vivre le chemin jusqu'au bout de la promesse.
Je répète ma question. Quel est le mérite de continuer à vivre le chemin jusqu'au bout de la promesse si c'est Dieu qui a promis? Il faudrait être fou pour ne pas avoir ce courage cette fois-là.
Le problème, c'est de croire que c'est Dieu qui a promis.
Non, mais là, il n'y a pas problème de croire. Là, il savait. La Torah nous dit que Dieu s'est révélé à lui. Alors, il savait que c'est lui qui s'est révélé à lui. Sinon, on n'irait pas cette histoire.
Il continue à vivre l'histoire?
Mais oui, mais tu répètes ma question sous une autre forme. C'est-à-dire, Abraham sait que c'est Dieu qui lui promet cela. Eh bien, il faudrait qu'il soit complètement insensé pour ne pas y croire s'il sait que c'est Dieu qui lui promet. Alors oui, le mérite de croire en Dieu. Vous savez ?
Ça veut dire que
c'est
croire vraiment que Dieu a le pouvoir sur le monde, puisque ça s'oppose aux lois de la nature.
Très bien, ça tu progresses un peu, mais justement, c'est de ça qu'il s'agit. Il sait cela, que Dieu est capable d'accomplir sa promesse, alors lui, il mérite de croire, quand c'est Dieu qui promet. Je vous ai peut-être un peu bouleversé par ma question, mais réfléchissez.
C'est peut-être la mise à l'épreuve, c'est-à-dire qu'après, il n'a pas d'enfant tout de suite.
Très bien, très bien. Le mérite consiste par le fait que, précisément, bien que ce soit Dieu qui promet, ça accomplit.
Et malgré ça, il croit.
Vous avez tous dit un petit peu de cette chose-là, mais récapitulez. Okay. Ça veut dire que toute la réalité est contre ce que Dieu promet. Et, vous savez, si nous étions dans une théologie dualiste, il n'y aurait pas de difficulté. La réalité fait partie d'une autre souveraineté, et le Dieu qui promet, c'est autre chose. Que ça soit contradictoire, c'est pas difficile. Un païen peut croire, un monothéiste, c'est très difficile. Parce que pour un monothéiste, c'est le même Dieu qui dirige la réalité. Vous savez, est-ce que c'est clair ce que je dis là? Attends, je vais terminer de dire. Voilà que Dieu promet à Abraham. Et puis, Abraham voudrait bien croire. Comment toute la réalité est contre. Je vais élargir cela par rapport à l'ensemble de l'histoire d'Israël. Depuis le début de l'histoire d'Israël, il y a une promesse en cours de promesse. Mais toute l'histoire est contre. Alors là, il y a le mérite de croire. Précisément parce que la réalité est contre. Si vous voulez, d'une certaine manière, je vais repousser ce que j'ai dit. Et d'une certaine manière, pour croire, Abraham doit parier Dieu contre Dieu. Dieu en tant que promesse, contre Dieu en tant que la réalité du monde, à travers la réalité du monde. C'est une foi très difficile, parce que vous notez. Ok ? Est-ce que c'est clair ? Alors, il y a une seule réponse à cette grande difficulté. Mais je veux d'abord être sûr que j'ai bien compris la manière dont la question se pose. Okay ? Allez, mais je rattache un autre sujet, et puis je vous en parle. Comment ça se rattache à un autre sujet? Il y a une promesse concernant l'accomplissement de la destinée de l'histoire d'Israël. Et à peine ça commence à se réaliser un peu, sorti d'Égypte, okay, et voilà que Moïse intervient et dit, mais vous savez, pour que la promesse s'accomplisse, il y a des conditions. Vous avez une Torah, non seulement à observer, mais à diffuser dans le monde entier. Ça commence. Alors il y a une opposition. La foi, la loi. Et la foi est rebelle à la loi, d'une certaine manière. Par définition. Parce que si je crois que Dieu m'a promis quelque chose, pourquoi faudrait-il des conditions, les mitzvot, pour que ça s'accomplisse, il a promis. J'essaie de vous faire découvrir un problème antérieur à l'unité qu'il y a dans Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Quand Moïse s'adresse au peuple, il lui dit, attention, le Dieu de la loi, le Dieu de la foi, c'est le même. Mais d'abord, comprenez la tension qu'il y a. C'est au nom de leur foi qu'ils ont refusé la loi. Vous suivez ? Bon, alors, je vous ai déjà donné la réponse en vous parlant d'accord, mais je vais la reprendre tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez demandé ?
Nous, ça va plus. On n'a jamais cru que ce fut également le problème, ça peut parler d'un problème, la liberté, pour trouver ce que Dieu promet, la promesse de Dieu. Est-ce qu'on peut également la trouver dans la liberté de l'homme ? C'est-à-dire que l'homme est tout de même libre à choisir sa voie.
Parce que
je l'ai expliqué.
Donne-moi une.
Mais l'exemple. La question, où est le mérite de croire en ce que Dieu promet ?
Oui, ça on a déjà répondu. Le mérite vient de ce que la réalité est contre. Ça veut dire que finalement, par rapport à la réalité, ce que Dieu promet est invraisemblable. Ce que vous diront tous les historiens, l'histoire d'Israël est invraisemblable. Et pourtant, nous y croyons. Nous d'Israël, on y croit. Nous, les membres du peuple d'Israël, on y croit. Alors on croit quelque chose qui est la réalité, c'est tout ce qu'elle peut vous répondre,
mais.
Et mine, je veux le lorsque les Grecs ont découvert l'histoire d'Israël, ils ont dit ces hommes-là sont. Ils parlent de la folie des Juifs. Ils croient dans quelque chose d'invraisemblable. Et quoi ? Sans encore entrer. L'histoire d'Israël, c'est quelque chose d'invraisemblable. Bon. Et donc il y a un mérite de croire lorsque la réalité est contre. C'est clair ? Parce qu'une foi très difficile, parce que, encore une fois, monothéiste.
C'est la réalité est contre. Est-ce que c'est pas un problème de la liberté ?
Alors dis plus. C'est possible que tu aies la réponse là, mais dis plus.
Je veux dire par là, la réalité est contre. Nous formons la réalité. C'est les hommes qui forment la réalité. De ce qu'on voit, de ce qu'on fait. C'est le mérite ou de l'homme.
Bon, je vais embrouiller dans ce que tu as dit. Tu me diras si c'est ce que tu pensais. Une minute. Parce que peut-être on a trouvé là la réponse. C'est que, je vais te donner l'exemple de Jacob. Les promesses sont faites à Jacob. Mais elle concerne un certain Israël. Il faut que Jacob devienne Israël pour que les promesses s'accomplissent. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que ça va dans le sens de ce que je dis ? Ça veut dire finalement, à partir du moment où Dieu juge qu'il y a déjà un seuil suffisant d'acquis de mérite d'être pour s'adresser à lui, pour lui dire ben c'est à toi que je fais la promesse, mais deviens ce qu'il faut pour que la promesse s'accomplisse. Là, la liberté que je veux. Okay ? Mais je vais tout de suite nuancer. C'est-à-dire que, en fin de compte, la promesse s'accomplira, puisque Dieu, qui est un des deux contractants d'alliance, est éternel. Okay. En fin de compte, la promesse s'accomplira, je vais dire quelque chose qui va peut-être vous étonner, que l'on mérite ou que l'on ne mérite pas, puisque la promesse a été faite.
Okay. Il y a le temps et le temps du mérite.
Voilà. Non seulement le temps, mais comment, la difficulté. À partir du moment où Jacob est Jacob, ben Dieu lui dit, tu seras Israël. Et ça veut dire maintenant que tu es devenu Jacob, eh bien tu seras Israël. Maintenant, soit le vite, soit le mieux, la promesse s'accomplira vite mieux. Mais dans tous les cas, rendez-vous à la fin.
Vous avez à peu près le problème ?
Vous arrivez là à une idée qui est très difficile à intégrer pour l'égoïsme croyant de la Bible. Je pense surtout aux chrétiens bien avant. C'est qu'un juif, même sans mérite, c'est un juif. Alors qu'un archevêque, même avec mérite, ce n'est qu'un archevêque. Vous voyez ce que je dis ? Je ne sais pas comment dire. D'ailleurs, le jour où j'ai parlé de ça avec un archevêque, il était déjà cardinal. Modifié, il était cardinal. C'est ça qu'il faudra arriver à comprendre, même si on met plusieurs heures là-dessus. Non, aidez-vous déjà. Oui, entre autres. Non, aidez-vous déjà de cette catégorie très difficile pour la pensée occidentale. De la différence entre des actes et la manière de l'être. Okay. Une espèce de sainteté naturelle qui est au-delà du mérite de l'homme. Et puis, comprenez bien ceci, c'est que cette promesse a été faite à un peuple Un peuple, c'est un ensemble d'individus. Mais ce n'est pas aux individus qu'elle a été faite. C'est au peuple. Ce peuple-là, comme tel, en tant que peuple, il est tzaddik sans faille. Et les individus, eux, sont à des échelles de génie différentes. Mais il suffit qu'il y ait un point d'insertion de l'individu dans le peuple pour que ce point-là nous explique notre problème. Okay. Est-ce que c'est clair? Comprenez, être juif, c'est premièrement faire partie d'un peuple à qui Dieu s'est adressé. Le problème du mérite individuel, c'est l'affaire de chaque individu. Le dialogue de promesse, pour notre sujet, qu'il y a entre Dieu et Israël dans cette Bible, ne concerne pas tel ou tel individu d'abord. Il concerne le peuple d'abord. Et c'est à l'individu de prendre sa place dans le peuple. Plus sa place est authentique, plus la promesse le touche de façon plus grande.
Mais est-ce que le mérite d'âge du peuple d'Israël, c'est l'addition des mérites d'âge individuels?
Absolument pas. Absolument. Ça dépasse. Absolument pas. Ça dépasse un peu. C'est-à-dire que, et il faut bien comprendre ça, que la première définition de l'identité juive, c'est accepter l'histoire d'Israël, faire partie de l'histoire d'Israël. Parce que c'est avec l'histoire d'Israël que Dieu a contracté une alliance. Alors, c'est ça, Jacob, le niveau Jacob. Alors, ceci dit, à l'échelle individuelle, il faut authentifier la personne de chacun. Et c'est là que jouent les clauses que Moïse va appeler la Torah et les Mitzvot. Alors je reprends l'explication, maintenant je crois que c'est un peu plus clair. La promesse s'adresse à un certain Jacob. Et Jacob n'est pas rien. Jacob, c'est l'aboutissement de tout un effort qui commence depuis le premier homme et qui en fin de compte, à travers Abraham et Isaac, arrive à Jacob. Okay? Alors à ce moment-là, Dieu dit, eh bien ça y est, bon, comment vous appelez ça, pré-bac. Okay? Le premier... On a passé tous les examens préalables qui fait qu'on peut se présenter devant l'examen avec un grand B. Okay? Alors c'est à Jacob que Dieu dit, eh bien voilà, à toi seront données les promesses que j'avais indiquées, annoncées à Abraham et à Isaac. C'est à toi qu'elles seront données. Et il dit, voilà les promesses qui concernent Israël. Mais il s'adresse à Jacob. Alors ça veut dire quoi? Deviens Israël. Dès que tu deviens Israël, la promesse est accomplie. Alors pourquoi sont les clauses? Pas pour que la promesse s'accomplisse. La promesse est la promesse. Pour être celui à qui la promesse a été faite. Est-ce que c'est clair? Ce sont les mitzvot qui font de Jacob Israël. Est-ce que c'est clair?
Est-ce qu'il y a là deux histoires qui coïncident? Est-ce que Yeshiat Mitzrayim pouvait être sans le, être orienté vers Sinaï?
Si le mérite était plus grand, eh bien, c'était pas du tout la peine de passer aux idoles. On rentre directement à Sion. C'est 40 ans du désert, nous le verrons plus en détail plus tard. Ces 40 ans du désert, ils n'étaient pas prévus dans le premier plan. Il y avait 11 jours de marche de l'Égypte à Israël. Et le verset dit très clairement qu'il mit Tion et Zedora. C'est de Tion que se doit sortir la Torah. Et qui a parlé au Sinaï? La Torah de Tion a parlé au Sinaï. Et puis comme il fallait un petit séminaire de préparation préalable avec mon cher Abénou dans le désert, comme Madrid, il y en a avec 600 000 ans écrits, on a fait un petit séminaire au Sinaï.
Akimahane.
Mais ce n'était pas prévu dans le premier plan. Nous verrons ça en détail. C'est parce que l'état du peuple était trop inférieur au niveau du mérite qu'il fallait les préparer plus. Ça ne trompe. D'ailleurs, il y a beaucoup de décisionnaires qui établissent que le Sinaï fait partie des rites d'Israël puisque la Torah est donnée au Sinaï et qui a écrit qu'il mit Zion, etc.
Mais tu
réponds
une autre façon de recevoir la Torah à Sion.
De toute façon, le verset est très clair, Kimitzion de Zedora. Et comment ça se fait qu'on a reçu la Torah au Sinaï? Parce qu'on avait besoin d'une préparation supplémentaire préalable. Mais vous verrez, si vous voulez, je peux vous donner tout de suite le texte à lire là-dessus.
La Torah qu'on a reçue est peut-être une préparation à la Torah qu'on va recevoir ici.
Ça, il y a énormément de niveaux. Mais je veux dire que là, maintenant que la Torah est donnée au Sinaï, on va apprendre a posteriori beaucoup de principes du fait que la Torah est donnée au Sinaï. Mais ce n'est pas prévu dans le plan. L'Église et tous les chapitres de l'Exode. Et vous verrez qu'il n'y a aucune indication qu'il va falloir passer au Sinaï et recevoir la Torah. À moins que le peuple en ait besoin. Alors il y a eu un détour de 40. Okay. Vous suivez ? Bon, on parle d'autre chose à la fois. Recevez le sujet.
C'est que
ce sont les
Israël qui sont sortis d'Égypte, qui ont reçu la Torah, oui. Et non ceux qui sont rentrés
en Égypte. C'est pourquoi la Torah leur sera répétée dans le Deutéronome.
Oui.
Elle sera redonnée. Là, Ken.
Est-ce que vous avez raison que Moshe a répondu à. Moshe a répondu à Dieu lorsqu'il lui a dit c'est à partir de toi, je vais faire ma première évaluation. Moshe a répondu, mais c'est pas possible, parce que tu as fait la promesse à Jacob et à Abraham. Ça ne va pas être.
Ça, nous le verrons en son temps. C'est le moment de la faute du Vaudor.
Oui.
Ken. Nous le verrons en son temps. C'est d'autant plus difficile que même si un nouveau peuple sort de Moïse, il est aussi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce qu'on ne comprend pas très bien la réponse de Moïse. Disons que ça a un autre sens. Vous suivez ? Bien, on a parlé de trois choses quand même à la fois. Je resserre le sujet, c'était la loi et la foi. La foi et la loi. Okay ? Je voulais vous faire découvrir quelle était la difficulté. Est-ce qu'il ne suffit pas de vivre l'histoire d'Israël pour être Israël ? Et ça sera le point de vue des juifs nationalistes qui refusent la Torah. Ils sont au pied du Sinaï dans cette discussion avec Moïse. Okay ? Et finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est une première réponse. Mais réfléchissez bien, c'est qu'effectivement, il y a ici un problème de conditions nécessaires, mais pas suffisantes. Il est nécessaire d'être Jacob, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi Moïse et David. Vous vous rappelez de ça ? On est arrivé juste là. Jacob, Moïse et David, c'est ça qui fait Israël. Vous vous rappelez de Ben Israël ?
Non.
Donc on est arrivé là. Vous aurez le même problème. Dès qu'on commence à étudier la prière, on a commencé un petit peu au début de l'année, le fait de la prière. Comment se fait-il qu'il faut que je demande pour obtenir ? Si je mérite, eh bien, je ne vais pas demander pour obtenir. Comment se fait-il qu'il faille que je demande pour obtenir ? Oui, c'est un problème très amoureux. Puisque finalement, dans la prière que nous étudions, cette prière qui s'appelle Tefila du Shmoné Esré, et je veux rappeler qu'il y a beaucoup d'autres genres de prières. Et celle-là, qui se base sur un jugement, savoir si j'ai un mérite, vous rappelez de cela. Okay. Alors, si j'ai un mérite, eh bien, il suffit que j'ai un mérite pour obtenir. Pourquoi il faut que je fasse la prière, je fasse la demande. Il y a beaucoup de réponses, mais vous voyez que c'est parallèle à notre problème. Pourquoi il faut une clause ? La réponse ici est analogue à celle de notre problème de la loi et la foi, ça se passe. C'est précisément le fait de demander qui fera que je suis celui qui mérite. Mais c'est pas simple à comprendre, hein, on étudiera. Je vous donnerai une réponse racinique sur cette question-là. Je crois que ça met la racine du Saint-Élève, de la ville de Cour, qui répond comme ça. Avant de prier, je ne mérite pas. Après avoir prié, je mérite. Vous comprenez ?
Ça veut dire qu'une fois que la promesse est donnée, il faut continuer, une fois qu'on même on sait que la promesse est donnée et qu'elle va arriver, continuer à la demander jusqu'à temps qu'elle arrive.
C'est-à-dire qu'il faut être celui. Là, la prière, ce n'est pas le problème de la promesse. Hein. C'est un deuxième exemple. Mais c'est-à-dire, je reprends la question de la promesse. Une fois que la promesse a été donnée, il faut devenir sans arrêt celui à qui la promesse a été faite vraiment. Okay. Ce n'est pas n'importe qui peut le devenir, mais celui, condition nécessaire. N'est pas suffisante, il faut aussi le devenir. Est-ce que c'est clair ? Ça se rattache à un problème très général. Concernant le problème moral, on n'est pas moral une fois pour toutes. Tous les jours, ça recommence. Il faut refaire la tour. Mais c'est bon, tous les jours, on est à un niveau déjà différent. Des fois, on tourne, il faut remonter. Mais on a une promesse qu'on arrivera au bout. Soit par la voie royale, la voie droite, soit à coup de pied et au cœur. Et dans tous les cas, on arrivera. Alors, on est libre de choisir comme ça ou comme ça.
Il y a un problème, lorsqu'on mérite, on a le sentiment que Dieu sait ce qui nous manque, ce qui peut nous donner. Par contre, au moment où on l'exprime, on peut se tromper dans les formulations.
Oui, mais si je ne le ressens pas comme manque, j'y ai pas droit. Dieu sait ce qui me manque, mais moi je ne le sais pas encore. Je ne le ressens pas comme manque. Et donc le fait de demander, c'est témoigner que je le reçois comme manque. C'est ce qui me donne le droit de le demander.
Je ne peux pas le ressentir comme manque sans exprimer ce manque parce que le mot est très fort parce qu'on
veut. Et justement, c'est pour ça qu'on nous a donné un texte pour pas se tromper. Voilà tout le monde. Si tu es vraiment un homme d'Israël, c'est ça qui te manque. Quand on est dur à le texte, il faut découvrir. Tu n'iras plus, il n'y a pas moins. Il faut ça pour faire un homme d'Israël. Alors c'est ça qu'on veut. Parce que nous apprenons cela, et on le rattachera aussi à l'histoire d'Abraham, c'est que les seuls hommes qui étaient capables de formuler des prières, c'était les prophètes. La capacité de prier, c'est une capacité propre à la prophétie. Or, ils ne sont plus capables de ce niveau de la prophétie, mais les prophètes nous ont dit avant de nous quitter, et quand vous aurez à prier, c'est comme ça qu'on prie. Ça, la demande est très claire. Et le texte de la prière nous a été donné par le Dieu. Ça, nous apprendrons à propos d'Abraham, nous rencontrons ça d'ailleurs dans l'histoire d'Abraham, à chez Vachetaïs, qui n'a vu dans l'histoire avec Abimelech. Mais je vous ai donné déjà une indication sur ce sujet, il me semble, cette année, c'est que c'est le problème de la parole entre Dieu et l'homme. La parole entre Dieu et l'homme, c'est la prophétie. La parole entre l'homme et Dieu, c'est la prière. Mais c'est la même parole dans les deux sens. Et dans la prière, nous renvoyons à Dieu sa propre parole. Est-ce que c'est clair? Donc la capacité de prier est de l'ordre de la capacité de prophétie.
Nous prions toujours collectivement pour la collectivité.
Ça, dans tous les cas, on va se mettre à l'abri de la prière de la collectivité. Sinon, comme a dit Élie, c'est dangereux. Alors, c'est individuel. Alors, ceci dit, nous verrons qu'il y a une prière individuelle qui n'a aucune règle. Sinon, l'authenticité manque.